This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve ses repères. Une émission préparée, proposée par Alain Vaquier, Gérard Viols avec à la technique Léna. Et ainsi, comme indiqué précédemment, aujourd'hui nous parlerons uniquement de Tchernobyl. Tchernobyl, le nuage qui a survolé la France et pour lequel eh bien, le gouvernement français a décidé de faire un blackout total avec un mensonge d'État qui a mis en péril la vie de milliers de personnes. Ainsi, petit rappel historique pour se souvenir ce qu'était Tchernobyl avec tout simplement un extrait des infos du jour.
26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose. C'est la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps.
650 000
militaires, pompiers, techniciens vont intervenir sur le site. Ils mettront 10 jours à maîtriser l'incendie. Autour de la centrale, la population est évacuée. 135 000 personnes quittent la zone interdite pour ne plus jamais y revenir. Officiellement, les Soviétiques ne reconnaissent qu'une trentaine de morts. Des sources officieuses parlent de milliers de victimes. Cancers, malformations vont être détectés chez les nouveau-nés ukrainiens. Dans les heures qui suivent l'explosion, un nuage radioactif s'échappe de la centrale en feu et se dirige vers l'ouest. À 2500 km de là, et contrairement à ce qui a toujours été affirmé, le nuage de Tchernobyl traverse la France.
Et oui, grand mensonge, mensonge d'État qui a mis en péril des milliers de personnes. Et petit rappel historique, savez-vous, imaginez-vous, qui est organisateur du mensonge ? Eh bien, il a un nom, tout simplement. C'est M. Sarkozy. Cela va vous surprendre. À l'époque, dans le gouvernement Chirac, eh bien, M. Sarkozy est délégué interministériel aux énergies et pour le nucléaire dans le gouvernement Chirac. Par conséquent, d'ores et déjà, ce monsieur s'est donc signalé par vraiment ce qui allait être le plus grand mensonge d'État jamais prodigué, peut-être même bien plus important que la fameuse histoire du sang contaminé. On est ici dans une catastrophe nucléaire internationale et comme vous l'avez compris, eh bien le nuage, lui, s'est arrêté à la frontière française. Et pourtant, on découvrira par la suite que non, bien au contraire. Le nuage a survolé la France, a causé les dégâts que l'on peut imaginer, mais dès cet instant, peut-être la région la plus touchée, eh bien ce sera malgré tout l'Alsace.
30 avril, dépêche de l'AFP, Monaco détecte le nuage. Dans notre journal de 20 heures, le directeur adjoint du service de protection, le SCPRI, n'est pas inquiet.
On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque.
Commentaire rassurant, mais on ne nous donne aucun chiffre. Entre le 1er et le 4 mai, aucun communiqué officiel des pouvoirs publics. À ces dates, le nuage évolue et gonfle sur la France, en jaune et orangé sur ses cartes. Sans information particulière, aucun média ne reparle de ce nuage. 5 mai, dépêche de l'AFP. Déclaration du ministère de l'Agriculture, les taux de radioactivité des produits agricoles sont normaux en France. Le laboratoire d'analyse confirme dans le journal de 20 heures.
Nous n'avons constaté aucune anomalie dans le lait, donc les normes n'ont pas été dépassées, n'ont même pas été atteintes.
Les 5 et 6, déclaration du professeur Pellerin du SCPRI, disparition de la radioactivité en France. Le nuage quitte seulement la France le 5 mai, la radioactivité déposée sur le sol reste. 7 mai, Emmanuel Vanier interview des gendarmes en Alsace. Le radiomètre étalonné sur les seuils de sécurité n'a rien enregistré.
Depuis l'écho de la catastrophe survenue à la centrale ukrainienne, le radiomètre dont est équipée la brigade et qui marche, puisque nous l'avons testé devant vous, n'a pas réagi. Donc il n'y a pas, en principe, de radioactivité ambiante.
Et pourtant, nous savons aujourd'hui que l'Alsace a été la région la plus touchée par le nuage. 8 mai, 19h, premier communiqué avec des chiffres expédié par le professeur Pellerin du SCPRI à notre rédaction. Pour la première fois, la radioactivité est évaluée à 360 becquerels.
Et oui, vous l'avez constaté, la gendarmerie, qui pourtant est d'une probité légendaire, va être manipulée et par conséquent, on va leur demander de bien vouloir communiquer de telle sorte que le nuage est passé, mais rien n'a été détruit en France, même pas l'agriculture. À savoir que partout ailleurs, en Scandinavie, notamment, ils ont donc interdit aux gens de manger de la salade parce que, évidemment, vous allez le comprendre, les salades sont peut-être, parmi les légumes, ceux qui ont les feuilles les plus larges. Et plus la feuille est large, plus, évidemment, la radioactivité va se déposer dessus. En Italie, on va interdire la consommation de produits laitiers. Mais en France, pas de problème, tout va bien. Et c'est le début du plus grand mensonge d'État, comme je l'indiquais. Mais on va revenir au jazz parce que, eh bien, effectivement, je vous indiquais que vient de naître, si je puis dire, une famille de musiciens à Nouvelle-Orléans, la famille Marsalis. On a écouté Wynton Marsalis, trompette. On va découvrir le jeune frangin, Branford, saxophoniste ténor, mais cette fois-ci, non pas papa Elis Marsalis au piano, mais Herbie Hancock, Ron Carter à la basse et Jeff Tyne, qui lui sera à la batterie, dans ce thème « Emanum ». Thank you. Branford Marsalis, mars 1986, et Manon. Alors, par rapport aux événements qui surviennent sur la France, il faut dire que, bien évidemment, et comme toujours, le phénomène va être traité d'une manière totalement politique. En effet, Jacques Chirac, fraîchement élu, est en pleine cohabitation, et il est pour lui hors de question de faire en sorte que, à peine arrivé, eh bien, ce gouvernement soit mis en position de fragilité. Ce gouvernement est fait pour durer, bien évidemment, et par conséquent, on ne va pas hésiter une seule seconde à mentir au peuple français en leur laissant croire que, évidemment, tout a été contaminé. Il est vrai que la France est aussi le pays qui a le plus de centrales nucléaires. Il est hors de question que le peuple français n'aient plus confiance dans le nucléaire, ont été investis des milliards et des milliards, et par conséquent, évidemment, Jacques Chirac ne peut pas se permettre de faire valoir que, en raison d'un accident survenu à plus de 2500 km, toute la politique nucléaire française va être remise en cause. C'est ainsi que, je le répète, tout devient vraiment politique.
L'arrivée du nuage radioactif sur la France est une véritable catastrophe pour le nouveau gouvernement de cohabitation. Jacques Chirac est Premier ministre depuis seulement 5 semaines. Pour lui et ses ministres, cet événement tombe particulièrement mal.
C'est la première grave épreuve de cette cohabitation et comment la gérer pour durer. Car l'essentiel de cette majorité, c'est de durer. Donc par conséquent, la politique mise en place, une politique de silence.
Une politique de silence, car le gouvernement de l'époque veut à tout prix éviter que les Français perdent confiance dans le nucléaire. D'autant que la France est l'un des pays au monde qui compte le plus de centrales.
Donc il y a ce qu'on appelle un lobby du nucléaire en France, c'est-à-dire des gens qui ont d'énormes intérêts financiers à ce que le nucléaire soit bien perçu par la population.
Et avec un nuage qui provient du RSS, on va remettre en cause un investissement sur 30 ans de plusieurs milliards de francs. Ça, on ne peut pas le faire, on n'en a pas les moyens.
C'était ça, la première préoccupation des autorités, des services officiels de l'État, c'était que les Français gardent toute leur confiance dans le nucléaire.
Alors, silence du gouvernement, évidemment, car aucun des ministres n'est autorisé à divulguer quoi que ce soit, et reste à savoir même si, directement, depuis la présidence, on n'a pas fait en sorte que rien ne soit communiqué. La solidarité gouvernementale fera ainsi que le silence deviendra totalement absolu et qu'on manipulera autant qu'on le pourra les médias d'information. Mais il faut bien quand même que quelqu'un fasse part de ce mensonge-là. On va donc détacher auprès des médias le professeur Pellerin qui, lui, eh bien, va aller au charbon et non pas au nucléaire, pour expliquer que, évidemment, la France n'a pas été touchée par le nuage. Et à partir de là, sur les plateaux de télévision, eh bien, le professeur Pellerin va tenter d'expliquer aux Français que tout, finalement, s'est bien passé et que la France est privilégiée et que, par conséquent, on risque absolument rien.
On a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées.
Les propos rassurants du professeur Pellerin vont être repris par toute la presse pendant une dizaine de jours.
Cette version officielle, elle était relayée par tous les médias puisque c'était la seule source d'information. Et la version officielle disait pas de radioactivité en France, pas de nuages de Tchernobyl, circuler, il n'y a rien à voir.
Eh oui! Vous imaginez que, bien évidemment, il n'y a rien à voir. C'est le cas de dire, comme le fera plus tard Coluche sur des sujets beaucoup plus amusants ou moins graves. D'ailleurs, Coluche, tiens, on va en parler bientôt parce que 86, c'est aussi l'année de sa mort. On va donc rester pour l'instant sur Tchernobyl et ses conséquences sur les territoires français. Ainsi, donc, tous les médias sont manipulés. Et vous imaginez bien que le plus gros média, la plus grande écoute de l'époque, dans les années 86, c'est bien sûr la presse. Mais pas que la presse, parce que la presse, elle est à la fois régionale, mais également nationale. Mais le média numéro un, c'est évidemment la télé. Et on ne va pas hésiter d'ailleurs à faire en sorte que soient manipulés les présentateurs ou les présentatrices du JT, comme tout simplement sera manipulée, elle déclarera plus tard, Madame Simonetta.
En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est.
Pour que l'information soit la plus claire possible, Brigitte Simonetta va même placer un stop sur la carte de la France, comme si les particules radioactives s'étaient arrêtées à la frontière.
Maintenant, je me demande si j'ai pas fait preuve d'incompétence à l'époque. Vu ce que l'on sait maintenant, je pense que j'ai conclu assez rapidement que j'étais sûrement un peu légère. Alors, j'ai des remords aujourd'hui, 16 ans plus tard. Sur l'instant, j'avais vraiment l'impression d'avoir été honnête et d'avoir bien fait mon travail.
Et oui, en effet, on va faire en sorte que le plus grand média, la télé, évidemment, fasse passer l'info, celle qu'on veut bien qu'elle fasse passer. Et c'est ainsi que Brigitte Simonetta, elle le dit elle-même, n'a pas hésité, image très forte, à placer aux frontières françaises un stop, faisant valoir ainsi d'une image un peu la détermination de ce qui allait être caché. Et ainsi, avec un stop posé sur une frontière, c'était comme si effectivement le nuage n'était pas du tout apparu en France. Et pourtant, ce sera grâce à un journaliste, et pas n'importe lequel, que va être mis en avant ce qui s'est réellement produit. Et ce journaliste bénéficie d'une aura et d'une notoriété dont on pourrait parfois sourire. Et pourtant, à ce moment-là, il fait partie de ces journalistes d'investigation qui vont faire en sorte que, eh bien, on ne peut pas tout faire croire à tout le monde. Ce journaliste, c'est aussi, bien sûr, Jean-Claude Bourret.
Voilà, côté allemand, on nous donnait tout ce qu'on voulait. On avait accès aux chiffres, on avait accès aux mesures, on avait accès aux autorités. Ils avaient une politique très claire d'information. Et puis, côté français, c'était le contraire. On allait à la préfecture. On avait droit à un sous-préfet qui maniait la langue de bois et le silence radio d'une manière assez hallucinante et qui ne nous donnait aucune information. De ce côté-ci, c'est la France et la salade est jugée parfaitement saine. Mais de ce côté-là, c'est l'Allemagne et la salade est jugée dangereuse pour la consommation car trop chargée en particules radioactives. Elle est par conséquent interdite à la consommation.
Le doute s'installe dans les esprits. Mais rien ne se passe. Finalement, c'est le 10 mai 1986, deux semaines après la catastrophe, que la vérité va éclater. Et cela, grâce au célèbre journaliste Jean-Claude Bourret, à l'époque en vacances en Italie.
L'affaire fait les gros titres de la Une italienne. Par exemple, je me souviens, il y avait sur 8 colonnes « Laver la salade ne sert à rien, car la radioactivité ne part pas avec le lavage, donc ne mangez pas de salade, etc. » Et je me dis, en France, ça doit être extraordinaire, il doit y avoir des titres monstrueux. Et puis j'arrive en France, j'achète la presse du dimanche, rien. Il y a juste en page 23 ou 24, un tout petit article qui dit « Tchernobyl, l'incendie est maîtrisé ».
De retour à Paris, Jean-Claude Bourret veut comprendre et mène l'enquête.
Et on commence dans mon bureau à mettre sur une carte d'Europe les niveaux de radioactivité. Et on se rend compte qu'on a 200 000 becquerels, 300 000 becquerels à la frontière entre la Belgique et la France, entre l'Italie et la France, même à Monaco, même en Espagne, mais que la radioactivité bien polie s'est arrêtée à la frontière et puis qu'elle a plongé sous la mer et puis qu'elle est ressortie pour aller dans d'autres pays.
Plonger sous la mer, ce sera le cas, puisqu'en fait, eh bien, ceux qui vont déclencher l'information et qui ne sont pas crédules de ce qu'on veut leur faire avaler, ce seront les pompiers de la caserne d'Ajaccio. Car en effet, comme le dit Jean-Claude Bourret, on a fait valoir que le nuage est passé sous la France, il est ressorti en Méditerranée, et il a attaqué cette fois-ci la Corse. Et en Corse, eh bien, le capitaine des pompiers de la caserne d'Ajaccio va faire valoir que lui, on lui a fait faire, parce qu'il avait l'autorisation des relevés, et que malheureusement, eh bien, il se rend compte que d'abord par la nature du nuage qui plombe au-dessus de la Corse, noir et chargé, eh bien, il comprend que ce n'est pas possible que ce nuage est anormal. Il va donc mettre en exergue, en fonctionnement, justement, les systèmes de mesure de radioactivité. Et là, aucun problème, tout se déclenche, toutes les alarmes se mettent à sonner. Et donc, il va informer le gouvernement, et notamment le préfet, qui lui devra informer qui vous voudrez, le ministère de l'Agriculture, mais rien n'y fait, on a décidé qu'on ne dirait rien à personne. D'autant que, faut-il le rappeler, le plus important, c'est que, effectivement, la contamination se fera par le sol et donc par les produits agricoles. Et les produits agricoles, c'est d'une part une part importante de l'économie française, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un support électoral de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, il a besoin d'eux pour pouvoir perdurer dans sa fonction de président, mais également pour être élu, si d'aventure il fallait refaire des élections.
L'expérience prouve que c'est une erreur de communication et qu'il faut tout dire, même lorsqu'il n'y a pas de danger.
Du jour au lendemain, Les ministres avouent publiquement qu'un nuage radioactif a bien traversé la France, mais voilà, ils refusent toujours de parler d'un quelconque danger pour la santé de l'homme.
Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout ce qui est aujourd'hui chez les commerçants français, bien évidemment, est bien plusieurs fois surveillé. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de sécurité en France.
Pour montrer sa totale bonne foi, les autorités décident pour la première fois d'interdire à la vente des épinards en provenance d'Alsace. On a retrouvé dans ce légume une radioactivité 5 fois au-dessus du seuil toléré par l'Europe. Une mesure unique et symbolique qui, de toute évidence, n'était pas suffisante.
Mais vous voyez bien que c'est aberrant. Parce que s'ils retirent les épinards, s'il y en a dans les épinards, il y en a dans les autres produits.
Il y avait la salade, il y avait l'herbe, il y en avait partout. Et nous, on ne mange pas beaucoup d'épinards. Par contre, les vaches mangent beaucoup d'herbes, elles. Et elles donnent du lait, de la viande, du fromage, etc. Et c'était toute la chaîne alimentaire qui était contaminée.
En réalité, à cette époque, des dizaines d'aliments sont fortement contaminés et pourtant ils ne sont pas interdits à la consommation. C'est le cas, par exemple, de la salade. Des mesures faites début mai 1986 sur un marché du sud de la France montrent une contamination de 2750 becquerels, 5 fois le seuil accepté. Pire encore, le lait de chèvre, qui entre dans la composition des fromages, est lui aussi fortement contaminé. Des prélèvements en Haute-Corse révèlent des taux 10 fois supérieurs à ceux autorisés.
Les services de l'État ont reçu l'échantillon, ont vu que ce lait avait 4400 becquerels par litre d'iode 131, et on n'a rien fait, c'est-à-dire on a su que c'était contaminé, et on n'a surtout pas averti ni les autorités, la préfecture de Haute-Corse ou de Corse du Sud, on n'a rien dit aux éleveurs, on n'a pris aucune précaution.
Alors les agriculteurs, effectivement, qui eux ne sont pas informés, pas du tout, ne pouvaient pas comprendre qu'on allait interdire à la consommation des produits de leur production. Et ça va engendrer des réactions très très violentes à tel point que des directrices de laboratoires vont être carrément la cible des agriculteurs. Elles vont être menacées de mort, on va envisager peut-être de plastiquer leur voiture, on va leur dire qu'on va séquestrer leurs enfants, qu'on va attaquer leur maison, qu'elles seront peut-être incendiées. Et par conséquent, il y a un climat tellement délétère que, eh bien, il faut bien qu'on se rende à l'évidence. Et donc, cette fois-ci, M. Pellerin, il va de nouveau retourner au charbon, mais en raison de la présence d'une vraiment une ingénieure chimiste présente sur le plateau, il devra faire l'aveu de la conséquence et du passage de Tchernobyl.
Un becquerel, c'est une désintégration par seconde, mais la plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie, je continue à parler en curie. La limite qui est considérée comme ne posant aucun problème, c'est 5,4 microcuries par an par personne. Un curie, c'est 30 milliards de désintégrations par seconde.
Bon. Alors, on n'a pas très bien compris ce que vous avez dit, je vous le cacherai pas, parce qu'enfin, moi, en tout cas, j'ai pas très bien compris.
Et donc, à partir de là, ça a déstabilisé complètement Pellerin.
Bon, écoutez, pas madame, ça... je voudrais pouvoir aller jusqu'au bout, vous direz ce que vous allez dire après.
J'étais complètement obsédé par la présence de cette femme.
Devant la France entière, Monique Senet va contraindre le professeur Pellerin à s'expliquer.
Il se trouve qu'en France, il est regrettable de le dire, il y a eu un véritable blocage de l'information. Et ça, c'est parfaitement dommage. Ça, c'est parfaitement dommageable. Mais c'est ce qui se passe à chaque fois, Monsieur Pellerin.
Vous avez à longueur de journée de bloquer l'information, c'est faux, et je vais en apporter la preuve.
Mais vous allez la donner 15 jours après.
Mais madame,
je mets au plusieurs minutes avant de lui faire dire ce que nous attendons tous. Oui, le nuage radioactif a bien traversé la France.
Pour la première fois depuis 2 semaines, le professeur Pellerin se décide enfin, en direct, à dire la vérité aux Français.
Sur le pays est passé un nuage radioactif.
Eh bien voilà, ça n'est donc fini du mensonge. Le professeur Pellerin devra effectivement avouer que le nuage a bien survolé la France. Il ne dira pas effectivement à l'antenne les conséquences que cela va produire. Il essaie de noyer le poisson en donnant des chiffres techniques. Vous l'avez constaté, mais cela ne suffira pas. Et ça y est, cette fois, on connaît la vérité. On ne pouvait encore imaginer les conséquences et les conclusions de cette affaire, mais elles arriveront très très rapidement, parce que cette fois-ci, eh bien, le mensonge d'État n'a plus cours.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'a fait.
Eh bien, cette fois, ça y est, le mystère et le mensonge sont apparus comme une réalité. Et on reviendra peut-être ultérieurement sur d'autres histoires de Tchernobyl. Mais pour l'heure, on va se quitter là. On reviendra sur d'autres sujets. Mais tout cela, c'est bien sûr bien d'autres histoires.